Et c'est la bande originale
mais
sur
oui.
France Inter. Bonjour
mais
les amis.
Oui, bonjour.
Ça y est, vous êtes revenus.
J'étais là hier, mais bon, on s'en souvient pas.
Mais quoi ? Mais non, mais nous, on a fait la chasse aux œufs.
Ah.
C'est ça la différence. À tout à l'heure, midi. Ouais, ça y est. C'est la bande originale avec Leïla Kadouzadi, Morgane Gadignan, Paul Mirabel, Daniel Morin. Un petit nouveau quand même qu'on va saluer,
Monsieur
Tristan Lopin.
Bonjour
Tristan. Et nos invités sont Serge Bagdasarian et Laurent Stocker de la Comédie Française. Déjà Tristan, bienvenue.
Merci, je suis très très flatté d'être là. Comment un lendemain de week-end de Pâques, c'est comme une résurrection pour moi d'être ici.
C'est un peu notre petit lapin.
Oh, quelle culture.
Jésus
de
Jesus. Moi, je voulais dire qu'il était notre petit lapin au chocolat, mais c'est vrai qu'avec la résurrection tout de suite.
Bah, ça dépend comment tu vas le bouffer, surtout. On va
voilà, bienvenue.
Déjà, nous allons parler de L'Avare qui se joue à la Comédie Française. Laurent Stocker et Serge Bagdasarian vont arriver dans quelques instants. Mais quel. Alors, tu sais, il y a un principe de blind test. Alors, le principe, Tristan, est très simple. J'envoie des intros de chansons. Vous, si tu penses avoir reconnu, tu me donnes juste ton prénom. Et uniquement, si Leïla n'a pas donné la réponse avant, je te demande quelle est ta réponse. Et là, tu me donnes.
Ok. Moi, je suis très très fort.
C'est vrai?
Ouais.
Ok. La preuve.
Leïla, Johnny. Viens voir les comédiens.
Ah, Johnny, quand même. Hein.
C'est Johnny, ouais, j'ai dit, mais c'est bien voir les comédiens, c'est Aznavour, pardon.
Alors ça, ça s'appelle faire une Leïla.
Ouais, c'est ça, ouais.
Tu occupes le terrain.
Mais t'as dit Leïla d'ailleurs avant de donner
la réponse.
J'ai même pas entendu.
Mais si t'es sourd, ça va pas être drôle, ce jeu.
Il se prend pour Jésus, il est sourd, ça.
Les comédiens, qui chante ça?
Leïla? Trust?
Yes.
Ah ouais, ok, d'accord.
Monsieur Comédie. Monsieur Comédie. Et pas Monsieur Comédie.
Ah,
c'est de ça la vanne.
D'accord.
Quand tu veux.
Allez.
Qui chante ça?
Fugain?
Non.
Mais, c'est Leïla déjà d'abord qu'on dit.
C'est
moi je l'ai pas. Moi je l'ai pas.
Andy. C'est britannique?
Oui.
Bah ouais.
je le reconnais au son.
Mais si, écoute.
Si, c'est britannique.
Écoute l'arrangement, écoute.
T'entends God Save the Queen là juste derrière?
Ouais, un peu, ouais.
C'est pas Queen, mais.
Personne?
Coldplay? Oasis? Non.
The Strokes?
Bah non. Vous avez pas trouvé le thème alors?
Muse?
Non, c'est Divine Comédie.
Oh.
Ah, Comédie. D'accord.
C'est Comédie.
D'accord.
Ok, c'est pas. Qui chante ça?
Daniel.
Jésus?
Non.
Ah, t'as Tristan, Jane Birkin.
Joli.
J'ai une pétendue.
Je vois ça, détends-toi.
Avec Alain Souchon. Mais c'est ça. Jane Birkin, Alain Souchon, ça s'appelle Comédie. Qui chante ça?
Comédie.
Morgane.
Daniel.
Alors, il y a une règle, Dalida ici, c'est moi.
Toi, c'est Bachoum, c'est Dalida.
Non, c'est Dalida et Bachoum, c'est bon, je peux en avoir deux, enfin, sur la quantité de la chanson française.
Et accessoirement, Nana Mouskouri.
C'est vrai.
Aujourd'hui, elle n'est pas équipée. Ah, si, vas-y, s'il te plaît.
Qui chante ça? Quand tu veux, Paul.
Daniel.
Délivre-moi.
Leïla. Non.
Je l'ai pas.
Ah, je l'ai pas.
Ah. Qui sait.
Ferret.
Non.
Délivre-moi.
Il y a pas beaucoup fait de tcha-tcha-tcha quand même.
De l'ombre.
Alors détrompe-toi.
Du passé.
Ça aurait pu être Laurent Stocker.
Ça s'appelle Comédie.
Si il chante, il peut chanter comme ça.
C'est vrai. Dario Moreno.
Ah.
Ok, c'est pas grave.
Jamais.
Tout se joue là-dessus. Ça rapporte 3 points la victoire.
Français.
Ah. double nationalité.
D'accord.
Double nationalité. Ils sont deux ?
Ouais. Anglais, français. Ça s'appelle La Comédie.
Leïla.
Oui.
Hardy.
Oui. Avec Blur, Françoise Hardy.
Ah ouais.
Blur.
C'était un coup de bluff, non ?
Non.
Un coup de bluff.
Oh là. J'ai reconnu Dalida, je m'en fous.
Victoire de Leïla et merci d'accueillir Laurence Tucker, Serge Patassin.
Le monde original avec Nelly.
Soyez les bienvenus à ce micro. Laurent est un habitué. Il vous a prévenu ou pas du tout, Serge Lamaillant, ça se passait ici ?
Non.
Non.
C'est pour ça qu'il
Alors, ce qui se passe, c'est devant le micro, déjà. Il y a un truc.
Déjà, faut que tu parles devant le micro. c'est la première chose.
Attendez, ça va faire du bruit ?
Non, allez-y.
Non, ça fait
Cet accueil est déplorable, pardon.
Mais non. Et quel bonheur de vous voir,
Serge. On est ravis de vous accueillir.
En vrai.
Enfin, Laurent, moi aussi, je suis ravi d'accueillir Laurent.
Oui, mais c'est que Laurent, on l'a déjà eu.
Chacun le sien. Ah oui, tu te lasses.
Non, pas du tout. Pas du tout. Mais moi,
c'est la dernière fois que je suis venu, c'était il y a 4 ans.
Mais non, mais à chaque fois, j'appelle de mes vœux Serge Bagdasarian.
Ben voilà, il est là.
Merci de votre accueil.
Merci.
Elle est vraiment fan, hein, je vous assure. Ouais. Elle a un poster de vous dans sa chambre.
Merci, un grand poster.
Mais Serge, c'est un grand comédien, c'est un grand chanteur, c'est un grand acteur, c'est un grand danseur, c'est tout.
Quel grand homme.
Ben merci.
C'est
merci.
Un grand cuisinier, c'est un grand cocher. Oui. Également
c'est vrai.
Dans la VAR, voilà. Puisqu'il a les deux rôles en fonction de la veste, si elle est à l'endroit ou pas l'envers. cette pièce où vous jouez Harpagon Laurence Tucker, mise en scène par Lille au bord, ça se joue jusqu'au 24 juillet. La pièce a déjà été diffusée, c'était il y a quelques jours, dans 200 salles.
200 salles en pâté live, et c'est rediffusé à partir du 3 mai dans beaucoup de cinémas. Je dis ça pour ceux
qui ne sont pas parisiens et
qui n'ont
n'arrivent
pas, la
chance,
pas à trouver des places.
Mais même vous avez du mal à trouver des places.
Mais oui, parce qu'il y a un quota de places, même nous, on nous demande, on nous beaucoup sollicité pour avoir des places, et c'est compliqué. Ce qu'il faut dire, c'est que le soir même, il y a le petit bureau à 5 euros qui est tout en haut, où on peut voir le spectacle, et où il y a toujours aussi des places qui se libèrent. Donc si vous avez la chance d'être parisien ou que vous passez par Paris, vous pouvez quand même tenter le coup le soir où on joue, et en général vous rentrez quand même.
Autour de vous deux, il y a Alain Langlais, Françoise Gillard, Jérôme Boudli, Nicolas Lormeau, Anna Servinka, Élise Lormeau, mais ça ne
Lomo,
sait
pas. Lomo.
Ah, Lomo, oui, pardon.
Ce n'est pas la fille de Nicolas Lormeau.
C'est ça. Il y a Lormeau et Lomo. Élise qui joue Élise en plus.
Qui joue Élise.
Voilà, petit clin d'œil du casting. Jean Chevalier, Clément Bresson, Adrien Simoin et Jérémy Berthou dans cette mise en scène.
Adrien Simion.
Simion.
J'ai dit un truc
Simon.
De travers.
Simon, Simon,
oui, mais Simon, ça saurait si j'étais si bien articulé. Ça saurait, je ne serais pas là.
J'ai été mal écrit, je pense.
Je ne serais pas là. Cet avare est modernisé, et pourtant, et c'est ça qui est fort, il est extrêmement actuel dans son propos. C'est ça, la force de Molière, c'est qu'il est intemporel.
Ben, complètement. L'île au bord, elle a voulu le transposer en Suisse dans les années 50. Et toutes les thématiques, que ce soit donc le malade imaginaire, que ce soit la misanthropie, que ce soit l'argent, donc dans l'Ava, c'est des thématiques qui sont multiséculaires. Et d'ailleurs, Molière avait déjà pris l'idée chez Plaute. Donc il y a plusieurs milliers d'années.
Il y a des thèmes, j'ai noté d'ailleurs, parce qu'il y a des thèmes qui sont très, très actuels. Il y a des phrases qui sont dites comme « le succès me donne de l'inquiétude ». On pourrait se dire que ça va très bien pour vos carrières, pour la situation, pour même la vie de Molière, et que ça peut résonner pour beaucoup de stars.
Complètement, parce qu'en plus, Molière, c'était quelqu'un qui écrivait pour lui les rôles importants. Donc il avait écrit l'avare pour lui. À ce moment-là, il avait déjà un problème pulmonaire, il le mêle à l'avare. Il y a de l'avare dans
et
le...
Et c'est pour ça que vous toussez sur
c'est
scène.
C'est pour ça que je tousse sur scène.
Et que vous vous mouchez pour vous coiffer.
Exactement. C'est parce qu'il faut faire... Il faut pour le gel, c'est trop cher. Je me coiffe... une fois que je suis... D'ailleurs, alors ça, c'est pas dans les didascalies ni rien. C'est des choses qu'on invente en répétition. Mais les gens sont morts de rire. Et en même temps, ils font « Ah, c'est horrible !» Enfin, voilà. C'est comme les selles dans le malade imaginaire. Oui. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont les sécrétions humaines et dont Molière se sert, et on s'en sert aussi dans la pièce.
Il y a plein de trouvailles dans la mise en scène, dans la façon tout d'un coup de faire entendre le texte sans le dire nécessairement, éteindre la lumière quand on rentre dans une pièce,
tout de suite
se jeter sur l'interrupteur, alors que parce que la metteuse en scène a transposé cet avare bar au bord du lac Léman. On est à Genève.
La Seine, c'est dans les Didascalies, c'est la Seine est à Paris. Elle a dit pour moi, la Seine est à Genève.
Oui. Ouais. Et alors, Maître Jacques, le menu proposé est légèrement modernisé.
Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs versions de ce menu. Soit il y a une version où il dit juste raw entremets, enfin il dit quasiment rien. Puis il y a d'autres versions où il s'étale un peu plus en disant il y a une longe de veau, enfin des choses beaucoup plus détaillées.
À quel moment on ose toucher à Molière, au texte en tout cas?
Mais on ose toucher à Molière parce que Molière lui-même touchait à ses textes et était très amateur de ce que...
Enfin, celui qui les avait écrits quand même, il avait le droit.
Il avait le droit, mais c'est vrai. Mais à un moment donné,
il écrivait avec les acteurs.
Voilà, il écrivait. Il y avait une écriture de plateau très directe. Et puis il y a eu des transformations qui sont faites avec le temps. On n'est pas tout à fait sûr. On n'a pas l'écriture autographe de Molière sur ses textes. Il y avait des choses qui étaient changées pendant les représentations, pendant les répétitions. Et il y avait une écriture qui parfois était retouchée par les acteurs. Et bien sûr, Molière avalisait les choses. Et puis après, quand il n'était plus là, on a continué parfois à transformer les choses.
Donc c'est pas trahir l'esprit, puisque lui, il utilisait cette méthode.
Je pense que c'est pas trahir l'esprit.
Ouais, ouais. Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a la chance d'être à la Comédie Française. Alors, on n'a pas ce côté attention, Molière. Mmh. Molière, c'est un peu chez nous, quelque part. Alors,
oui, mais c'est une raison pour lui marcher dessus.
Ah non, vous trouvez qu'on lui marche dessus?
Non.
Je pense que...
C'est ce que tu as dit tout à l'heure, quand même.
Je pense qu'il serait là, il serait très content, justement.
Au contraire, il y a énormément de respect, mais vous dites...
Texte intégral, hein.
Comme il est chez nous, ou comme on est chez lui, et inversement,
C'est-à-dire qu'il y a des gens.
Il y a cette connexion.
Il y a des gens qui montent Molière à l'extérieur et qui disent attention, parole d'évangile,
sacré,
attention, faut pas toucher, sacré, etc. Bien sûr que nous, on change pas totalement le texte, on change deux ou trois phrases, dont le menu, mais sinon.
Non, mais moi je pense que même si Molière avait écrit cette pièce aujourd'hui, il y aurait la voiturette de golf, il y aurait toutes ces allusions faites.
Là, il est un peu transposé chez Trump par moment. On a des figures comme ça qui nous parlent aussi actuellement.
Ah ouais, vous n'avez pratiquement rien changé. Il y a Trump, ça se passe en Suisse.
Non. Et puis,
le texte n'est pas changé.
Il y a une dégaine de. Votre fils a une dégaine presque d'influenceur sur Internet, quoi.
Oui, Cléante, il est.
Mais il a la montre en or, il a le petit foulard, il a la totale.
C'est à Dubaï.
Ouais, c'est ça, Dubaï. Total Dubaï.
Lilo Bor, qui est suisse, donc. Elle ne voulait pas que ce soit un avare qui soit pauvre. Elle voulait montrer que il y a des gens très riches qui sont très avares. Donc elle voulait que ce soit transposé dans une famille suisse, pourquoi pas de banquiers, disait-elle. Et c'est une famille de banquiers suisses dont le père est très très avare, voilà, et qui prête à des taux totalement exorbitants. C'est dans le texte de Molière, évidemment. Et voilà, donc elle voulait.
25%,
elle
disait, 25%. C'est un taux d'usure dingue.
Non, parce que
gagner double,
c'est pas une
bonne
affaire.
Parce que l'emprunt est double. L'emprunt est double. C'est non seulement celui qui prête demande un taux d'intérêt, mais comme lui-même emprunte pour pouvoir prêter, il fait payer les deux intérêts.
J'adore.
C'est formidable. C'est génial.
Mais il est bon.
Il y a ces phrases comme sur la flatterie, la sincérité. La censure même que le monde entier, l'espèce de pression en tout cas mise sur Harpagon, et puis le piège de l'emprunt, du crédit que tous on peut vivre à différentes échelles, mais qui est bien représenté, bien expliqué. Ça va quand même extrêmement loin dans les propos. Alors je dis pas que je connaissais l'avare par cœur, mais on a toujours l'impression comme ça de le connaître, de l'avoir déjà vu, de l'avoir travaillé à l'école. Mais le fait de désirer la mort de l'autre, de dire finalement entre l'argent et une personne, bah finalement je préfère l'argent, et puis tant pis s'il meurt, tant pis si elle meurt.
Il y a ça aussi chez les fils et les pères. Le fils désire la mort du père.
C'est ça.
Parce que sinon, il peut pas profiter de l'argent.
Et réciproquement. Il dit, à un moment donné, lui dit, lui dit, vous survivrez à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Il lui répond, tant mieux.
Et puis, il y a des scènes très, très sexy. Comment ça se passe d'ailleurs, Serge Bagdassarian, quand on est,
quand on est très sexy.
À la sexy, toi.
Non. Joli enchaînement. Hein.
Comment ça se passe quand une metteuse en scène ou un metteur en scène, là, en l'occurrence, c'est Lilo Bor. Est-ce que il y a une discussion sur ce qu'un comédien accepte ou pas en termes de sexy?
Oui. S'il s'agit de se mettre un peu nu, s'il s'agit de dévoiler une part de son intimité physique importante,
ce qui est le cas de La Flèche.
voilà, on a toujours une discussion, il y a toujours une précaution, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on ne se sente pas violé dans son intimité, tout simplement. Donc, effectivement, moi, je n'ai pas assisté jamais à un moment où il y a eu un débordement de cet ordre-là sur de la part d'un metteur en scène qui exigerait quelque chose sans l'aval d'un acteur ou d'une actrice.
Et avant de parler même de l'intimité, cette metteuse en scène, Ilo Bor, quand elle arrive à la Comédie Française, c'est pas sa première collaboration, mais quand elle décide de mettre en scène, est-ce qu'elle élabore une sorte de casting au sein de la troupe pour choisir ses interprètes? Comment est-ce que ça fonctionne à ce moment-là?
Elle décide avec Eric Ruff de quelle pièce elle a envie de monter. C'est la sixième, là, je crois. Et puis après, elle dit, j'aimerais bien un tel dans les rôles. Puis après, elle fait toute une audition.
Vous êtes déjà choisi.
Elle nous connaît comme comédien, donc elle choisit après les comédiens avec qui elle a envie de travailler, quoi.
Elle vous distribue comme ça,
C'est ça, Moi, elle m'a appelé il y a presque deux ans.
D'accord.
Pour me dire, j'ai le projet de l'avare. Est-ce que tu voudrais jouer dedans? Je dis, mais quel rôle? Elle me dit, l'avare. Je dis, oui.
Vous, Serge, ça fait 15 ans que vous êtes maintenant à la Comédie Française?
15 ans.
Et vous aviez déjà joué l'avare?
J'avais déjà joué l'avare. Oui, j'avais joué l'avare sous la direction de Catherine Yégel et je jouais Anselme à l'époque. C'est-à-dire Anselme, c'est quand même le personnage qui arrive à l'acte 5, scène 5.
C'est ce que fait Alain Langlais.
Donc tout est dit déjà.
C'est le papa. On va pas divulgâcher forcément la fin, mais on connaît l'histoire. Mais c'est ça qui est fort, le papa qui revient comme ça.
Et bien, mais c'est complètement dingue d'ailleurs.
On a juste l'impression, pardon, mais que la fin, tout va se résoudre en une scène et c'est fini. Alors toi, tu prends l'argent, toi tu te maries avec lui. Ouais, ok, d'accord, je te paye le costume, machin. Et on n'en parle plus.
Bah, c'est souvent ça chez Molière.
Il faut résoudre la pièce.
On a l'impression que la fin, c'est.
On va la torcher.
Ouais, c'est ça, on va la torcher, parce que là, il faut que je finisse.
Mais parce que quelquefois, il écrivait vite. Il écrivait vite aussi, Molière. Il avait un cahier des charges complexe. Il fallait que ça se joue à Versailles, il fallait que le roi voit vite la pièce, et puis voilà.
Il torchait ses pièces.
Je parlais de nudité, parce que Jérôme Pouli, que vous connaissez beaucoup mieux maintenant que vous jouez l'avare, mon cher Laurent Stocker, puisque il joue la flèche, et que vous fouillez ses bourses, j'ai envie de dire, pour être sûr de trouver de l'argent.
Non, je fouille ses poches, qui sont des poches sans fond, presque. Et puis à la fin, je cherche partout. Voilà, je cherche tout dans tous les recoins.
On expose son trésor.
C'est extrêmement.
Où est-ce qu'il peut cacher de l'argent?
C'est ça. Et il s'appelle La Flèche.
Voilà.
Il n'y a pas de hasard.
Suivez La Flèche. L'Avare, c'est jusqu'au 24 juillet. Battez-vous pour pouvoir y assister parce que c'est rafraîchissant, c'est drôle.
Et encore une fois, venez le soir même.
On va continuer d'en parler avec Serge Bagdasarian et Laurent Stocker de la Comédie Française. On est ravis de les accueillir. Elle n'est pas de la Comédie Française et elle n'est pas du tout. Elle n'est pas du tout contente de vous accueillir. Elle ne vous aime pas, Serge et Laurent. Voici Morgane.
Laurent Stocker, c'est Serge Bagdasarian. Je vous aime pas, mais je vais pas être trop dur parce que ça commence pas fort, quoi. J'ai lu les biographies. Laurent, naissance à Saint-Dizier en Haute-Marne. Voilà. De tous les saints, Dizier, c'est pas le plus hype, quoi. J'ai grandi pas loin. Je peux vous assurer qu'on ne voit ni la mer, ni la montagne, ni le bout du tunnel. 20 ans après, vous entrez au conservatoire avec toute la hargne et le bagage émotionnel, qu'implique une naissance à Saint-Dizier. En interview, Catherine Yégel a dit, c'est fou cette intensité. Il pleurait déjà en arrivant, quoi. En 2001, vous entrez à la Comédie Française. En 2004, vous devenez le 511e sociétaire. 511e. Je sais que l'important, c'est de participer, mais enfin bon, quand même, 511e place, ça doit faire mal au cervical de regarder le premier depuis votre marche du podium, quoi. Serge, vous êtes né à Dunkerque. Mais c'est un épisode de Confession Intime, cette émission. Mais pauvre loulou, quoi. Saint-Dizier, Dunkerque. Heureusement qu'il n'y a pas un Dardenne. Heureusement qu'il n'y a pas un Dardenne qui traîne dans les couloirs avec une caméra, parce que vous étiez bon pour un César, quoi. Mais tu m'étonnes que les gens ont des carrières incroyables derrière l'envie de s'en sortir, quoi. Ouais. Toujours. Qui t'a empoisonné Guillaume Gallien ou à voler les cheveux de Denis Podalydès. De toute façon, écoutez, je vais vous dire, ça fait deux ans, j'ai l'habitude, les biographies que je lis sur les invités de l'émission qui ont des chouettes parcours, c'est jamais naissance à Saint-Tropez ou à Martigues, évidemment. Non. Si t'as 75 naissances à Martigues, après les dates de 95 à 2002, c'est il prend le temps de vivre, con. Donc ça fait des pastis bien dosés, mais pas des carrières, quoi. Serge, en 2007, vous entrez à la Comédie Française, en 2011, vous êtes nommé 521e sociétaire. Putain, vous êtes des super acteurs, mais alors au cross de la Comédie Comédie Française, vous êtes nuls, quoi. La première sociétaire, c'est Mademoiselle Debrie, elle arrivait en 1680, donc vous courez pas vite, quoi. Ils sont où, les gars? Je sais pas. Je les ai perdus il y a 3 siècles et demi, là. Serge, vous jouez aux côtés de Laurent dans l'Avare, vous incarnez Maître Jacques, son cuisinier et son cocher. Pour ceux qui connaissent pas l'Avare, parce qu'on peut vivre avec des avares sans l'avoir jamais lu, c'est normal, hein. Si vous vivez avec un avare, a priori, il achète pas de bouquins. Il y a des gens chez eux, t'as l'impression que t'es chez Gibert tellement il y a pas un objet neuf. Ah, bah, ça vous arrange bien, le rapport du GIEC, bande de gros rats, là. Hein, ça vous permet de vous faire mousser un peu. Non, mais c'est de la récup, en fait, hein. La surconsommation, ça nous mène au bord du précipice. Ah ouais? Laisse-moi deviner, t'as pas de monnaie pour le taxi qui nous amène à bord du précipice? Crevard, va. Bref, l'avare, c'est leur histoire, mais à l'époque de Molière, époque où les riches sont ceux qui se promènent en chemise de nuit tout le temps, et les serviteurs, ceux qui disent à longueur de temps, mais monsieur, vous n'y pensez pas. Harpagon, il est tellement rapia que ça interfère dans les histoires d'amour de ses gosses, de ses relations avec tout le monde, et il est constamment en train de protéger une cassette pleine d'or de peur qu'on ne lui vole, alors que personne n'en veut, que tout le monde s'en fout, les autres, ils veulent juste s'aimer en paix. Disons, pour faire simple, qu'aujourd'hui, Harpagon, il serait très à droite. D'ailleurs, vous jouez le dimanche à 14h. Quelle belle idée, les amis. Dimanche prochain, allez voter, s'il vous plaît. Et allez au théâtre. Vous pourrez sortir et dire, en fait, Molière, c'est hyper actuel. Vous verrez, ça marche à chaque fois.
Merci. J'ai commencé par ça.
Je l'avais écrit d'abord.
Mais c'est vrai que l'humour, alors il y a le thème du consentement qui est régulier chez Molière, souvent dans ses pièces. Et l'humour, évidemment, la moquerie de l'argent, de l'avarice, ça c'est une évidence. Mais c'est surtout sur les quiproquos. On est en permanence sur des quiproquos.
Oui, bah c'est un peu le principe chez Molière. Il y a le
quand ouais, il c'est parle... un ressort qui marche aussi chez Feydeau. Enfin,
oui, bien sûr.
C'est un ressort comique très efficace, ce quiproquo.
Oui. Il y a le quand il parle de la cassette.
Je sais pas si
Harpagon parle de la cassette, mais Valère lui parle de la fille. Donc il y a le quiproquo jusqu'à la fin.
Et puis alors tout le jeu de ne pas réussir à dire donner, même pour dire donnez-leur à boire ou donnez-leur à une chaise, le mot donner il sort pas.
Le mot donné sort pas, ça c'est quelque chose qu'on a. En fait, la flèche dit juste avant, il n'arrive pas à dire donner, il dit simplement je vous prête le bonjour. Mmh. Et quand même, dans le texte, on s'est rendu compte qu'à 4 moments, il dit donner. Donc moi je me suis dit, il faut en faire quelque chose, il n'arrive pas à dire donner si facilement. Donc il a une sorte de. Il hoquette. On va dire, il bégaye et il faut lui taper dans le dos pour qu'il sorte le mot.
Voilà, c'est un truc qu'on a inventé. Serge, vous n'avez pas non plus le rôle de quelqu'un d'extrêmement sympathique parce que il est
la vérité.
Il n'aime pas.
Il est la vérité quand même, Maître Jacques.
Oui, il dit la vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il lui dit exactement ce qu'il veut entendre. Il lui dit qu'il l'aime. Après ses chevaux, il est la personne qu'il aime le plus.
Au monde qu'il aime le plus. Ouais.
Et donc à ce titre-là, il lui dit la vérité. Il lui dit que partout on se moque de lui. Enfin, c'est terrifiant. Et donc il se fait voler. Voilà.
Roué de coups.
Et après, il décide de mentir. Évidemment, ça marche pas du tout. Il sait pas mentir. Il sait que dire la vérité. Donc il se plante. Vraiment.
Et il y a des scènes qui sont rendues sexy par le jeu, uniquement par le jeu, par l'intonation, par le ton que met Frosine, c'est-à-dire Françoise Gillard. C'est quoi ce petit sourire?
Non mais c'est admirable, moi le coup de la banane tous les soirs, voilà. elle est formidable, elle est merveilleuse.
Alors il faut préciser, parce que le coup de la banane, pour ceux qui ne l'ont pas vu,
c'est un fruit,
il faut qu'ils aillent
c'est une banane.
C'est un fruit, et voilà, merci.
Et à un moment donné, elle parle...
De petite taille.
De toute petite taille, une petite banane, et puis elle en joue avec la flèche, voilà, pour lui expliquer comment elle fait pour s'en sortir dans la vie.
C'est une rapporteuse d'affaires, on va dire.
Oui, mais c'est elle qui manipule tout le monde finalement. Le rôle de Frosine est très important dans la.
Ouais, c'est un côté mère Mackerel aussi. Ouais. Enfin, elle place,
elle arrange.
Elle arrange.
Mais elle défend la bonne cause aussi quand même.
Oui, mais
elle veut défendre le véritable amour.
Au départ, elle demande de l'argent. Mmh. Ouais. D'ailleurs qu'elle n'aura pas de la part d'Harpagon évidemment, mais qu'elle aura peut-être du côté de. Et puis finalement, comme. La happy end avec Anselme qui a beaucoup d'argent, peut-être qu'on se dit qu'elle arrivera à trouver finalement pas mal d'argent grâce à Anselme.
Ce que j'allais dire, la morale là-dedans, elle est pas très très comment dirais-je
Molière va dans le sens de la jeunesse et de l'amour en fait.
Non, c'est pas ça, c'est que c'est quand même l'argent qui résout tout. C'est-à-dire que l'argent est le problème au début, mais c'est l'argent qui résout tout à la fin.
Bah, c'est-à-dire que il tombe, il y a ce Deus ex machina qui est le seigneur Anselme, qui lui a énormément d'argent. D'ailleurs, on ne sait pas comment il avait fait sa fortune. Mmh. On dit qu'il a fui les désordres de Naples, donc nous on en a fait un peu
un mafieux.
Un peu mafieux, où je suis très en, en, en infériorité par rapport à lui, je lui baise la main, je lui baise sa bague, etc. Mais c'est ça en fait. Oui, oui, c'est lui, il a beaucoup d'argent, donc Harpagon lui dit, alors vous engagez-vous à faire tous les frais de ces deux mariages, etc. Et donc lui, on sent que lui, oui, il va tout payer, quoi.
Maître Jacques et Harpagon sont donc nos invités, Serge Bagdasarian et Laurence Tucker. On parle de L'Avare qui se joue, qui se joue d'ailleurs jusqu'au 24 juillet, mais vous réussissez à jouer plusieurs pièces en même temps, parce que pour les 400 ans de Molière à la Comédie Française, il y a beaucoup de représentations. Vous jouez deux pièces, Serge ?
Alors moi actuellement je joue en même temps le Misanthrope, je suis en répétition d'un spectacle qui s'appelle Jean-Baptiste Madeleine et les autres, que met en scène Julie Deliquet, qui va jouer dans moins de 2 mois maintenant, et puis L'Avare.
Et vous, Laurence?
Et moi je recommence à jouer à Le Bourgeois Gentilhomme à partir du 7 mai, dans la mise en scène de Valérie Le Sort et Christian Eck, qu'on a déjà créé.
Vous me disiez qu'il y aurait des week-ends plutôt chargés, samedi,
oui,
dimanche.
Oui, quelquefois on joue le samedi L'Avare et le Bourgeois, enfin L'Avare à 14h, le Bourgeois à 20h30. Et puis après, le dimanche, le Bourgeois à 14h et L'Avare à 20h30.
Faut juste pas se planter de personnage.
On est pas très avare de représentation.
C'est ça.
Dans cette maison. Mais il y a 900 levées de rideau par an, hein. Donc, physiquement. On est 59. Donc, voilà.
Physiquement, c'est éprouvant. Est-ce que d'ailleurs, ça nécessite, pour l'un comme pour l'autre, une hygiène de vie, un entraînement digne des sportifs de haut niveau pour pouvoir être en scène et jouer comme ça?
C'est-à-dire qu'il faut,
faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit.
Oui. Il faut faire attention, oui. Faut pas faire une grosse fête la veille quand on joue à 14h, ça. Non. Surtout quand on joue à Harpagon, quoi.
Serge, dormir, c'est important quand on est acteur.
Oui, il faut dormir. Il faut aussi trouver des espaces de plaisir quand même dans la nourriture, par exemple. Une des grandes obsessions quand même de la troupe.
Là, c'est Maître Jacques qui parle ou c'est...
Non, mais c'est vrai. On parle tout le temps, et surtout avec Laurent qui est un fin gourmet, on parle tout le temps de cuisine. À côté du théâtre, dès qu'on parle pas théâtre, on parle de cuisine. On parle de l'endroit où on peut acheter la bonne épice, la bonne pistache. Moi, j'ai un carnet d'adresse en
la bonne pistache.
Ah oui,
pistache.
Oui, oui.
Vous n'achetez pas des pistaches comme ça. Hein.
Non, mais la bonne pistache, une par une, c'est quand même.
Oui, c'est compliqué. Ah, il y a plusieurs adresses. Hein.
Mais bien sûr, pour la bonne vanille, pour
l'acheter un sac de 10.
On ne plaisante pas du tout, en fait. Non. On plaisante pas du tout. C'est vrai.
Je vois.
C'est la vérité.
Le tour Paris pistache.
Et donc, on fait dans
les restaurants aussi.
Les restaurants, on fait là-dedans, il y a quand même des choses qu'on doit faire qui est aussi avoir un rapport, d'une part, avec cette autre forme de partage qui est la cuisine, qui a beaucoup à voir avec le théâtre et avec l'humanité, en fait. Et cette notion de partage, on la ressent très fort quand on joue un spectacle avec Laurent, parce que lui aussi, c'est un homme de partage, un homme de bon goût. Et on a beaucoup de points communs là-dessus, et c'est aussi commun à la troupe, beaucoup. On en parle énormément de tout ça.
D'ailleurs, il y a des acteurs avec qui ça réagit plus ou moins quand on fait des improvisations ou quand on joue. Mais je dois dire que quand Serge et moi, on est en train de répéter, on se comprend très bien. Dès qu'il y en a un qui part, l'autre suit ou l'inverse. Donc voilà.
Vous êtes sur scène et on encourage tout le monde à aller voir et applaudir cette pièce à la Comédie Française, en plus de l'endroit qui est magique. La mise en scène de L'Île au bord redonne un coup de fraîcheur à ce texte. Le jeu des acteurs est totalement dingue. C'est juste, c'est drôle, c'est intelligent. Et encore une fois, il n'y a pas que la réflexion autour de l'argent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être extraites, même sur les réseaux sociaux. On peut trouver aussi des résonances sur le regard du monde, sur la censure, sur le jugement des autres, qui va penser quoi, sur l'apparence aussi, il y a des réseaux où on ne fait que se prendre en photo et montrer comment on est accoutré, c'est le reproche que fait d'ailleurs le père à son fils aussi, en lui disant tu me fais honte à mettre autant de richesses
sur toi,
ou à te coiffer de la sorte, d'ailleurs la coiffure en prend un coup aussi. Vous avez une perruque d'ailleurs sur scène?
Ah ouais, j'ai une perruque, ouais. C'est une perruque poivre et sel, voilà, mais qui est
oui, parce qu'il
assez long à mettre, hein. Mais ça met une demi-heure, quoi.
Et puis il y a des lunettes à double foyer qui m'a fait penser à Jonathan Lambert dans Bayvé.
Moi j'ai pensé à Madame Doppfire parce que
on a pensé à Marty Feldman aussi.
Ouais. C'est vrai. Bref, prenez du plaisir et allez applaudir L'Avare, allez applaudir Molière à la Comédie Française. On va tout de suite retrouver Monsieur Paul Mirabel. Bonjour, quoi qu'on t'avait oublié, on savait que t'es là. Hein.
Bonjour Nagui, bonjour Léla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui?
Extrêmement.
Bah écoutez, moi aussi ça va. Juste ce week-end sur internet, il y a quelqu'un qui m'a traité de victime bobo parisien gaucho progressiste.
C'est vrai.
Ça m'a fait super plaisir, parce que je pensais pas que j'étais capable d'être autant de choses dans la vie. Je pensais que j'étais juste timide, mais en fait non. C'était signé anonymement, par contre, avec comme pseudo m.cadignan75. Impossible de savoir qui c'est pour la remercier. Je me suis renseigné quand même, puisque même si ça m'a fait plaisir, j'ai pas compris tous les mots dans la phrase, et peut-être que dans le lot il y en a que je peux réutiliser dans un autre contexte. Hein. Si un jour je vais dans un restaurant et qu'on me dit « Alors monsieur Mirabel, comment trouvez-vous ce steak tartare ?» Je peux répondre « Alors je le trouve très gaucho-progressiste. » Donc je me suis renseigné, progressiste ça signifie que tu es partisan du progrès par des réformes ou des moyens violents. Alors au risque de décevoir ce cher anonyme m.cadignan75 dont on peine toujours malheureusement à trouver l'identité, je suis clairement pas aussi intelligent que ça. Je le sais puisque jusqu'à hier matin je pensais que le libre arbitre ça avait un rapport avec le foot. Je pensais que c'était un arbitre qui pouvait se déplacer où il voulait. Vraiment, je sais qu'intellectuellement parlant, je peux pas prétendre à trop de choses dans la vie. Je l'ai vu parce que la dernière fois, je voulais utiliser le mot radiateur, sauf que je me suis trompé, j'ai dit gladiateur. Je vous laisse imaginer l'ambiance quand en pleine réunion, j'ai dit à quelqu'un, est-ce que tu peux démonter le gladiateur? Il y a autre chose qui m'a conforté dans l'idée que je plafonnais un peu intellectuellement, c'est que j'ai découvert récemment que je figurais dans le classement des personnalités préférées des Français entre 7 et 14 ans d'après le journal de Mickey, ce qui est relativement significatif du niveau intellectuel de ces chroniques. Hein. Moi, je pensais que je parlais à des gens qui payaient des impôts et de la taxe foncière. En fait, pas du tout. Je parle surtout à des gens en CE2 qui, comme question existentielle, se demandent s'ils ont bien mis leur compote dans leur cartable.
C'est bien aussi. C'est super.
Ouais. J'ai pris une décision radicale, du coup, pour me cultiver et assumer mon nouveau statut. Je suis allé dans une librairie, sauf que j'y suis allé un jour férié. Donc déjà, le projet de nivellement intellectuel commence mal. Du coup, je me suis rabattu sur le seul magasin ouvert à proximité, qui était le magasin Relais à la gare du Nord. La gare du Nord, pour nos auditeurs et auditrices qui ne visualisent pas, c'est la seule gare de France dans laquelle tu as des contrôleurs qui te demandent si tu veux du shit. Et... ou à côté d'un train, on peut te vendre du maïs. Et magasin Relais, pour celles et ceux qui ne visualisent pas, c'est un magasin relativement normal, sauf qu'un Twix, ça coûte 9 euros. Et quand tu l'achètes, il peut arriver que quelqu'un ait déjà croqué dedans. Du coup, vu que le projet de devenir brillant s'annonce compliqué, j'ai pris une décision radicale, tenez-vous bien. À partir d'aujourd'hui, je vais exclusivement miser sur mon physique et sur mon charisme.
Oula, joué.
Oui. Alors je sais qu'à première vue, le pari semble un peu osé. Je me suis croisé dans un miroir en revenant. Je sais qu'actuellement, je ressemble beaucoup à la version sans gluten de Jérémy Crédville. Mais là, c'est décidé. Je vais arrêter tout embryon d'effort intellectuel pour me consacrer uniquement à mon summer body, qui, je vous l'accorde, ressemble encore beaucoup à un winter body. Je me suis inscrit dans une salle de sport, là, du coup, pour préparer cet objectif. Je vous en parlais. Je me suis inscrit à la boxe. J'y vais toutes les semaines, là, depuis une semaine. C'est un abonnement mensuel très simple qui coûte 5 Twix et avec lequel tu peux te faire taper dessus de 9h à 19h. J'ai dû me peser, en plus, avant de faire de la boxe. Sur la balance, il y avait écrit Error 404 not found. J'ai dû le faire parce qu'en fait quand tu fais de la boxe, j'ai appris ça, t'es réparti par catégorie de poids et je suis tout seul dans ma catégorie de poids puisque normalement 70 kilos pour 1m90 c'est pas une catégorie de poids, c'est une mucoviscidose. Tu peux pas être moins lourd que la ceinture que tu soulèves à la fin des combats. En plus, c'est très dur comme sport la boxe si vous en avez déjà fait, mais pas là où je pensais, parce que là par exemple quand j'ai mis un gant, j'arrive pas à mettre l'autre. Surtout qu'au début j'étais nul, tu sais, le prof il m'a dit ouais tu vas te battre contre un sac. J'ai perdu contre un sac. Si ça c'est pas la preuve que je suis vraiment une victime bobo parisien gaucho progressiste. Merci tout le monde de m'avoir écouté.
Merci, bonne Mirabel.
Et pas qui sera, oui, bien sûr, au Grand Rex, les 14, 15, 16, 17 mars de l'année prochaine, 2023, en tournée dans toute la France, et malheureusement, dimanche prochain, il ne sera pas à Toulouse pour la tournée des humoristes France Inter, contrairement à
Morgan
Cadignan.
Mais parce qu'il va voter, parce que lui...
Ça n'empêche pas.
Ben, si tu votes à Toulouse, oui, tu peux y aller.
Oui, si tu votes à Toulouse. J'ai voté à Toulouse.
La musique est présente dans l'Avare. La musique accompagne quelques scènes, quelques changements de décor. Un décor d'ailleurs très intelligemment fait, très évolutif, où on peut aussi bien être en intérieur qu'en extérieur. Je l'ai dit, c'est Lilo Bor qui a fait la mise en scène. Je n'ai pas cité Bruno de la Vénère qui a fait la scénographie. Agnès Falk, les costumes. C'est Nathalie Perrier pour la lumière. Et Mitch Okoviak, justement, pour la partie un tout petit peu musicale où on découvre.
Oh, mia bella Napoli,
Tino Rossi.
Et au clair séjour.
Ça range pas le côté mafieux dans Selma quand on.
Ça c'est pas de Mich. Hein.
Non.
Ça, c'est ni Mich. Il a fait. Il compose des musiques aussi. Il a fait aussi la musique de du Bourgeois Gentilhomme.
J'entends. Mais là, en l'occurrence, je n'avais que le Tino Rossi.
C'est la fin du spectacle.
Exactement. Ouais. On va parler de Molière et de la Comédie Française avec Martial Poirson, qui est professeur d'histoire culturelle, de littérature et d'études théâtrales. Ça sera après vos musiques, celles que vous écoutiez par exemple dans la deuxième partie des années 80, Laurence Stoker, vous écoutiez Julien Clerc.
J'adore Julien Clerc.
Quand vous dites j'adore Julien Clerc est un formidable musicien, mélodiste, c'est lui qui a composé toutes ses chansons, qui a composé les textes, jamais. Ça a toujours été un auteur qui est venu lui apporter sa plume. Donc quand on dit aimer un artiste, c'est son interprétation, c'est ce ben qu'il voilà. dégage, c'est ses choix de parolier.
Mais la façon dont il interprète les textes et la façon dont il est aussi dans la vie, moi c'est quelqu'un qui me touche beaucoup, que j'aime beaucoup, et j'écoute beaucoup Julien Clerc quand j'ai un petit moment de down, quoi. Je mets Julien Clerc et ça va mieux.
Et quand on est acteur, il y a des interprètes aussi au théâtre, au cinéma que l'on aime, quel que soit le rôle qu'il joue.
Michel Serrault, par exemple. Michel Serrault ou Louis de Funès peut jouer dans des choses qui sont plus ou moins artistiquement valables entre guillemets, mais j'ai toujours le même plaisir à les voir. Même quand je vois de Funès dans Le Gendarme et les Gendarmettes, on peut pas dire. Que ce soit les plus grands de Funès,
mais lui suffit à rendre.
Ça suffit, ouais. Ça suffit. Ouais.
Deuxième partie des années 80, Laurent, vous montez à Paris, comme chaque provincial peut le dire, absolument.
Des Vosges.
Vous quittez les Vosges grâce à une enseignante qui vous emmenait au Théâtre du Peuple.
Alors, c'était pas une enseignante, c'était ma voisine.
Ah, c'est la voisine.
Marie-Thérèse Kopf, qui est maintenant malheureusement décédée, qui m'emmenait à Bussan.
Ouais.
Tous les étés, et elle m'a dit, mais il faut que tu en fasses ton métier. Parce que j'étais déjà dans un club de théâtre et que ça se passait bien, et voilà, elle m'a.
Et vous venez passer un bac théâtre à Paris.
Bac théâtre au lycée Lamartine.
Il y a cette voisine donc qui joue un rôle considérable. Il y a aussi votre grand-père qui animait des bals populaires.
Oui, mais j'avais un grand-père. C'était comme beaucoup en Lorraine, issu de l'immigration italienne, et donc lui, il jouait des instruments, il montait ses estrades, il réglait ses lumières pour faire les bals et pour faire aussi les mariages, etc. Donc moi, j'étais un peu, je le suivais. Et il se déguisait beaucoup, et il faisait beaucoup de pitreries, mais qui était, alors que c'était pas du tout son métier, c'était un maçon. Hein.
Ce sont vos premières planches?
Bah oui, complètement.
C'est ce qui donne le goût de la mise en scène.
Bien sûr, parce que je le voyais, il avait le trac, il jouait du saxo, après il jouait de la batterie. J'adorais ça, c'était, voilà.
Quant à vous, Serge Bagdassarian, vous écoutiez dans ces mêmes années 80. Prince. Mais alors un titre pointu, hein, on n'est pas... numéro 1 au top 50.
C'est une gifle parce que j'aimais bien Prince et je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé à acheter ce disque le matin où il est sorti en France. Je l'ai posé sur la platine et ça a été une gifle qui retentit encore aujourd'hui. Je sens encore la douleur de bonheur parce que c'était formidable de
créativité.
Tout m'a parlé le génie total, le rythme, la sensualité.
Et tu l'as vu en concert d'ailleurs.
Je l'ai vu en concert 12 fois. Enfin bon, ça reste mon idole absolue.
On est dans la même période et on vous retrouve à Dunkerque à la Licorne.
Ah oui, le théâtre de la Licorne, oui.
Vous collaborez pendant plus d'une quinzaine d'années avec quelqu'un d'important pour vous, c'est Claire Danquane.
Oui.
À cette époque-là, on parle du théâtre d'objets, en tout cas à la Licorne à Dunkerque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le théâtre d'objets, Serge ?
C'était un théâtre très particulier qui mêlait à la fois le masque et les objets. C'est-à-dire que, par exemple, on a fait un spectacle qui s'appelait le Bestiaire Forain, qui était un cirque. Et en fait, c'était des très très vieux artistes, vraiment cacochimes, très vieux, qui tenaient plus debout. On avait des costumes terribles de vieux artistes, et ils domptaient tout ce qu'on peut pas dompter. Donc ils domptaient des requins, ils domptaient des boîtes de sardines au trapèze, enfin des trucs pas possibles. Et c'était des souvenirs formidables, voilà. Pour
Mais vous étiez prof ou acteur ?
Moi, à cette époque-là, j'étais. Faut dire que je suis une sorte de clandestin, moi, dans ce métier, puisque je n'ai jamais reçu la moindre formation. formation théâtrale.
Ah, et
voilà, c'est pour ça. Tout s'explique. Bah oui, moi j'étais prof d'anglais et je faisais du théâtre en amateur. Et puis un jour, on s'est dit, on va aller nous prof, on va aller jouer à Avignon. On est parti jouer à Avignon. On a vendu un an de tournée et je suis devenu acteur.
Voilà. C'est super.
Comment vous définiriez Avignon d'ailleurs?
Bah moi, ce que j'en ai vu, c'est du off. Le spectacle a très bien marché, donc on n'a pas dû tracter ni faire de parade. Donc c'était pour nous,
tracter ou faire des parades, faut expliquer à ceux qui n'ont pas vécu Ce sont les acteurs qui, je vous en prie.
C'est les acteurs qui descendent dans la rue, soit pour montrer des petits bouts de spectacle sous la forme d'une parade qui circule en ville, ou alors qui tractent, c'est-à-dire qui donnent des tracts aux gens pour informer de l'heure et du lieu du spectacle.
Voilà. La tradition aussi.
Ce qui donne une vie incroyable à Avignon. Ouais.
Voilà, ça devient, on connaît ça pour l'avoir fait, vous connaissez ça.
Il fait tellement chaud.
Voilà.
Je ressens la douleur, c'est ma claque de Prince, la chaleur d'Avignon.
C'est-à-dire que lorsque des acteurs disent aussi tu fais Avignon, la deuxième question c'est dans quelle salle y a-t-il la clim?
Exactement.
À quelle heure?
C'est-à-dire que s'il n'y a pas la clim, c'est compliqué.
Non, mais c'est l'occasion de boire des coups comme ça au soleil, c'est super.
Une bière chaude à Avignon.
Petite insolation.
2007-2008, Laurence Stocker, vous écoutiez. Une bande originale qui vous renvoie à un César, c'est ça?
Philibert.
Oui, c'est la bande originale du film Ensemble c'est tout que j'ai fait avec Claude Berry. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup cette musique. Je l'ai écoutée. Alors au début, j'aime pas écouter les musiques de films où j'ai joué, etc. Mais cette musique était...
C'est déjà une Madeleine maintenant, ça.
Ouais, voilà,
quand ça revient.
Ouais, c'est ancien maintenant.
Et le personnage que vous incarnez, Philibert, est bègue.
Il est bègue, oui.
Comment vous avez abordé justement ce rôle-là?
Je connaissais des bègues et puis il se trouve que Claude Berry il travaillait parce qu'il avait eu un AVC avec un phoniatre et un jour il avait décidé que ce serait moi qui jouais Philibert et le phoniatre est venu et puis il m'a dit fais le bègue, on va voir s'il y croit.
Ouais.
Et puis le phoniatre y a cru et donc il s'est dit bon bah vraiment c'est bien. Donc le phoniatre a dit mais faut travailler un peu, on va résoudre le problème. Donc voilà.
Travailler un rôle, ça veut dire en règle générale se documenter, ne pas simplement, c'est pas uniquement apprendre un texte et suivre les consignes d'un metteur en scène.
Ah non,
c'est aller plus loin.
C'est se documenter, c'est regarder ce qui a été écrit avant, après, sur. En dehors, en dedans, pour par exemple l'avare, j'ai parlé beaucoup avec un ami psychanalyste qui m'a expliqué d'où venait l'avarice en fait. Et donc
même pour l'avare, il faut travailler.
Ah oui, bien sûr. Enfin, moi je trouve que c'est important. Après, si ça se voit pas, c'est pas grave. Mais la cuisine intérieure, sans faire de la psychologie, elle est importante parce que elle est sous-jacente, elle est là, quoi. Voilà. Et donc cet ami psychanalyste me racontait que la première chose qu'on offre à ses parents quand on est enfant, c'est les selles. Et donc les enfants qui ne vont pas à la selle ou qui les retiennent ou qui les cachent deviennent des avares. C'est très intéressant, c'est des enfants qui se constipent.
C'est vrai que quand on change un enfant, c'est comme un cadeau de
oui,
savoir.
Et les avares, en général, sont des gens qui ça remonte à la petite enfance, ils n'ont pas voulu faire ce cadeau-là aux parents. Voilà, c'est intéressant.
Et en anglais, on appelle ça des anal retentive.
Voilà.
J'ai un cadeau, Daniel, pour toi. Ouais.
Le même tous les jours.
Serge Bagdasarian, vous écoutiez en 2007.
Qu'est-ce que tout s'effondrait. Je serai près de toi. Merci.
Rita Mitsouko, même si tout s'effondrait, je serai près de toi. C'est le talent et l'une des signatures. Il y en a plusieurs, des qualités chez Rita Mitsouko, mais de pouvoir, sur une musique extrêmement légère, avoir des textes extrêmement profonds, voire tristes.
J'adore les textes d'Erita Mitsouko. J'adore ce qu'écrivaient Fred Chichin et Catherine Ringer, et ce qu'elle écrit encore d'ailleurs. Mais je trouve que c'est la grande noblesse d'artistes populaires et qui se revendiquent comme populaires que j'aime beaucoup. Je trouve que ce sont des grands textes, des musiques faciles, très recherchées, qu'on a immédiatement dans l'oreille. Et puis, quelle interprète inouïe, quoi. Quelle interprète inouïe.
Nous sommes en 2007. Serge, vous entrez à la Comédie Française. J'ai dit au début d'émission que j'aimais le comédien que vous êtes. J'aime votre façon de danser, de chanter aussi. Vous avez une voix extraordinaire.
Merci.
Ce qui fait que, non mais il y a plein de pièces où d'autres comédiens ne peuvent pas être distribués, parce qu'il faut cette capacité-là.
Marche Alice, c'est-à-dire vous nous avez envoyé les comédiens qui n'étaient pas capables de le faire.
Mais moi je peux vous dire, ceux qui peuvent pas chanter. Non mais voilà, le chant c'est aussi...
Chant choral, c'est ce que vous avez fait.
Ouais, oui, beaucoup, j'ai fait beaucoup de chant choral, j'ai appris beaucoup là.
Vous continuez de chanter, de travailler le chant, ou comment vous pratiquez ça?
Vous savez, on chante pas de la même façon selon le spectacle. Là, on a chanté. J'ai chanté pour la dernière fois dans un cabaret où c'était de la musique baroque. Et donc évidemment, la musique baroque, ça ne s'aborde pas du tout comme on le fait pour d'autres formes plus usuelles. Et donc là, il fallait réapprendre à chanter presque, avec des ornementations baroques qui sont très précises. Voilà. Donc oui, on continue selon les spectacles à se former, à changer ses pratiques, à changer sa façon de faire, à chanter des choses que parfois on n'aime pas. Mm-hmm. Mais il faut toujours trouver la petite chose pour.
Vous
se
pouvez manger. Tout chanter.
Ah bah non, bien sûr que non.
Beaucoup de choses quand même.
Ouais. Oui, mais enfin bon, il y a pas. Non. Moi, quand j'entends par exemple une chanteuse italienne qui s'appelle Mina, elle fait des trucs parfois insensés. Il y a une chanson qui s'appelle Brava où elle va à une vitesse dingue, et même en ne chantant pas, en disant le texte, je n'arrive pas à faire ce qu'elle fait. Ça reste pour moi un but.
Est-ce que c'est un conseil que vous donneriez à toutes les actrices, les acteurs, prendre des cours de chant pour l'oreille, pour la colonne d'air, pour le placement de la voix, pour la justesse du jeu même et du chant?
Oui, je trouve que c'est fondamental. D'ailleurs, on enseigne beaucoup le chant, je pense, dans les écoles. Ah toi, oui. Tu as dû en faire.
Bien sûr.
Pas mal. Mais surtout le chant choral, quand même. Parce que ça permet d'écouter les autres, ça permet d'écouter la résonance de la voix, ça permet de chanter pas trop fort, assez fort, d'être à la fois un appui, un soutien pour les autres, et en même temps au service d'une globalité. Et ça, au théâtre, alors mais là, c'est très, très nécessaire.
On a tous chanté dans des spectacles. Hein. Oui. C'est très important. Même autant de Molière, c'était les acteurs, c'était les comédiens qui chantaient avec les ornementations aussi.
Eh bien justement, nous allons parler de Molière avec Martial Poirson qui nous a rejoint. Bonjour et merci de venir à ce micro. Professeur d'histoire culturelle, de littérature et d'études théâtrales à l'Université Paris 8, vous avez écrit Molière, la fabrique d'une gloire nationale au Seuil. Vous êtes commissaire de l'exposition Molière, la fabrique d'une gloire nationale, donc à découvrir à Versailles. C'est jusque là, à la fin de la semaine.
Hier.
C'est vrai?
Ça s'est terminé.
Ah, dommage, je croyais que ça allait jusqu'à la fin de la semaine.
Hein. C'était vachement bien.
Ouais, on a bien fait de l'annoncer alors. Ouais.
Bravo, merci, bonne journée.
Tout à l'heure, Laurent Stocker disait que la Comédie Française était la maison de Molière et que Molière était chez lui, on était avec lui. Il y a vraiment cette osmose qui se passe dans ce lieu en particulier avec cette troupe.
Oui, absolument. Je pense que Molière fait vraiment partie constitutive de l'identité de la troupe, de l'imaginaire de la troupe. Il est qualifié encore aujourd'hui comme le saint patron. Oui. Saint patron, c'est à la fois le protecteur et en même temps le guide, patron au sens presque de la couture. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois une figure peut-être d'émulation et en même temps d'inhibition, puisque c'est le grand Molière, l'inégalable Molière. Et cette idée, on la trouve dès sa mort, en fait. Hein. La Comédie Française, créée 7 ans après la mort de Molière, se constitue sur l'idée que de toute façon, le meilleur est déjà venu, que Molière a excédé à la fois toutes les catégories du comique comme acteur et comme auteur, et les auteurs d'ailleurs qui vont abonder le répertoire de la troupe vont passer leur temps dans les préfaces à s'excuser d'une certaine façon de continuer à faire du théâtre. Donc il y a ce côté comme ça très ambivalent, je pense, de l'héritage.
Il l'écrivait pour se donner des rôles à ses proches, à ses amis, femmes et enfants, comme vous me l'avez dit en antenne tout à l'heure, Laurent Stocker.
Oui, il est un génial directeur de troupe et c'est ce qu'il restera toute sa vie, y compris à partir du moment où il est consacré aussi comme auteur. Donc, comme Shakespeare d'ailleurs avant lui, il écrit d'abord et avant tout pour remplir ce qu'on appelait à l'époque le système des emplois. C'est-à-dire, il y a des comédiens qui sont là avec des capacités vocaliques, ça a été dit, physiques, gestuelles, et qui vont incarner un certain nombre de personnages typiques, en fait, là. Le jeune amoureux, hein. On peut être un jeune amoureux jusqu'à la fin de ses jours, ce qui est pas mal au théâtre, on ne vieillit pas. On peut être une grande coquette également, donc voilà. Et donc, il est obligé d'inventer finalement, à partir des ressources humaines, d'une certaine façon, son théâtre, qui s'écrit, voilà.
Dans son écriture, on dit aujourd'hui qu'elle est donc toujours d'actualité, extrêmement moderne. Elle l'est surtout parce qu'elle est intemporelle, parce qu'il se base sur des vices et des travers de la nature humaine.
Oui, à l'époque, il est qualifié de peintre, en fait. Donc, c'est l'observateur des catégories comiques de son temps, mais c'est aussi un génial psychanalyste avant l'heure, hein, puisque, effectivement, quand il parle de l'avare, il parle d'un trait psychique sur lequel, aujourd'hui encore, on continue à découvrir des ressorts. Et donc, c'est une écriture qui fonctionne vraiment sur l'exploration de toutes les dimensions de l'esprit humain. Et ce qui est probablement très moderne dans son théâtre et qui demeure, c'est que,
même les personnages les plus négatifs, en apparence négatifs, Harpagon typiquement, sur lequel on peut avoir une certaine... sont finalement extrêmement sensibles, ont une fragilité intérieure, une faille intérieure, qui fait qu'on peut les voir à la fois comme les pires salauds et en même temps comme des personnages qui sont les premières victimes, en fait, de leur propre système.
Pour en revenir à la Comédie française, vous nous avez rappelé, donc c'était 7 ans après sa mort, 7-8
ans. Oui, en 1680, oui.
C'était la fusion de deux troupes qui se sont retrouvées réunies, c'est ça?
C'était même la fusion de trois troupes. Il y avait la troupe des comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, qui étaient les grands adversaires de Molière en son temps, dont ils se moquent dans l'Impromptu de Versailles et qui ont été à l'origine de beaucoup de cabales d'ailleurs contre lui. La troupe du Marais et la troupe de l'Hôtel Guénégaud. Et ça, c'est la volonté du roi Louis XIV qui dit, voilà, maintenant, si on veut participer à la politique de la grandeur, il faut faire une seule et unique troupe qui réunisse toutes les catégories de comiques et qui sera présidée par le grand héritier de Molière, Lagrange, qui est celui sur lequel, à partir duquel on sait à peu près, le peu de choses qu'on sait sur Molière, ça vient de Lagrange, qui est donc vraiment le fondateur de la troupe et en même temps celui par lequel cet héritage va rentrer dans la maison, ce qui deviendra plus tard la maison de Molière.
Totalement adulé par toutes les actrices et tous les acteurs, est-ce qu'il y a des reliques on pense au fauteuil du malade imaginaire d'abord, mais est-ce qu'il y a d'autres reliques comme ça, sacrées, ayant appartenu à Molière?
Alors il y a un bout de mâchoire qui est conservé dans les réserves, bon, qui probablement est un faux, mais qui fait partie du peu de choses qu'on a pensé préserver, ce qui n'a pas été une sépulture, puisqu'il est mort dans des conditions un peu particulières. Il y a le fauteuil. Alors le fauteuil, c'est intéressant.
Il est mort chez lui, il n'est pas mort sur scène.
Il est mort chez lui, tout à fait, ouais. C'est bien de le redire, puisqu'on continue à vivre sur ce mythe du comédien foudroyé sur scène, en jouant
malade. Il n'était pas en forme.
Au 40 rue de Richelieu, pas très loin.
Oui, c'est ça, juste à côté, en fait.
Et dans une fosse commune aussi, c'est ça?
Alors ça, c'est aussi un mythe, en fait. En réalité, il a été enterré à bas bruit.
Assez profond,
voilà, pour pas.
Ce sont en terre chrétienne.
Subir, voilà, l'interdiction de l'Église. Les comédiens sont excommuniés à l'époque. Il faut pouvoir abjurer sa profession avant de mourir. Il n'a pas eu le temps de le faire puisque la mort est arrivée trop vite. Et donc, sa veuve, Armande, a plaidé auprès du roi lui-même pour qu'il puisse malgré tout être enterré dans un cercueil, mais sous son nom de baptême. C'est Jean-Baptiste Poquelin qu'on a enterré et non pas Molière, ce qui résout le problème.
Il y a une tradition, je ne sais pas, de saluer une statue, d'embrasser.
On a plusieurs. On a plusieurs
en janvier.
Pour les reliques, d'ailleurs, c'est intéressant. Il y a un coffre-fort qui est dans la bibliothèque où on a le calot de Molière quand il a joué le malade imaginaire, donc juste avant d'expirer.
D'accord.
Et puis on a sa montre où c'est marqué Jean-Baptiste Poquelin dessus, une montre dont le mécanisme a été refait entre temps, mais le socle, on voit que ça appartenait à Molière. Et on a une statue qui est de Molière quand on descend de scène, enfin quand on quitte vraiment la maison. Et sur la face, donc je suis un peu dyslexique, sur la face gauche, c'est usé parce que souvent on le caresse son visage ou on le frappe, suivant si la représentation s'est bien passée ou pas. Donc des fois, moi, je lui en mets une.
Ça, c'est Laurent tout seul, parce que
et
Serge
puis,
dit fois, non.
Des fois, je le caresse. Ouais. Et Serge, je lui fais des bisous.
Et vous avez une tradition, c'est au mois de janvier.
Le 15 janvier,
tous les comédiens de la troupe viennent et disent.
L'hommage à Molière, où on fait une phrase d'une pièce de Molière.
Face à la statue ou
face
sur scène,
à la statue qu'on salue.
D'accord.
Cette fois, sans frapper, très bien.
Sans frapper.
En tout cas, l'exposition s'est terminée donc
hier,
mais le livre, lui, est toujours disponible au Seuil.
Absolument.
D'accord.
Absolument.
On n'en vend plus depuis hier.
Molière, la fabrique d'une gloire nationale, signé Martial Poirson. Merci d'être venu à ce micro. Voici Daniel Morin et le héros du jour.
Chers amis, mon héros du jour aurait pu être José Gomez. Ce bon José est un archevêque qui, chaque année, juste avant Pâques, bénit les animaux dans une église de Los Angeles. C'est une tradition très suivie qui a plus de 90 ans. On peut voir défiler des chiens comme Mercredi, la petite chienne de Laurie Castro qu'elle considère comme son enfant. Quelle tristesse. Mais il y a aussi des chats, des serpents et même un lama comme Santiago, agressé il y a un an par un puma et dont la maîtresse, prénommée Paloma, fervente croyante, veut faire protéger par Dieu. Alors, c'est vrai que c'est tentant. Moi-même, j'ai hésité à me rendre sur place pour faire bénir Paul Mirabel. En ce moment, je le trouve un petit peu palichon, il finit pas toujours ses croquettes et le message Error 404 Not Found m'inquiète un petit peu, je dois le dire. Alors oui, Monseigneur Gomez aurait pu être mon héros pour le bonheur et l'espoir qu'il apporte à tous ces pauvres paroissiens qui croient qu'une fois bénis, leur animal ira mieux ou sera protégé. Il aurait pu, Gomez, mais... il ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que même si c'est génial d'apporter un peu de bonheur aux gens en bénissant leurs bêtes, ça me fait peur. J'ai peur qu'un jour ça aille trop loin, ça dérape, qu'on voit des gens faire bénir leur bagnole ou leur slip. Alors non, Monseigneur Gomez n'est pas mon héros du jour, car mon héros c'est un inconnu. Et c'est parce qu'il est inconnu que c'est mon héros. Je m'explique. Quelqu'un, mon héros, avait jusqu'à samedi pour se faire connaître des services de la Française des Jeux et récolter son chèque de 6 millions d'euros. Il ne l'a pas fait. C'est terminé pour lui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a validé son ticket de loto en Loire-Atlantique. Alors, le loto, en fait, c'est pas hyper compliqué. Petit 1, tu prends une grille, tu coches des numéros. Petit 2, tu fais valider ta grille. Petit 3, tu regardes le tirage à la télé. Petit 4, si tu as gagné, tu appelles la Française des Jeux, tu prends rendez-vous pour prendre ton chèque. Et ben, le gars ou la fille, il avait bon aux deux premières étapes. C'est, je pense, au niveau de la troisième que ça a merdé. Non, parce qu'en général, quand tu vois que t'as tous les bons numéros, tu ouais. te dis pas, c'est bon, la thune, on verra plus tard. Non, tu restes réveillé toute la nuit avec le ticket serré dans la main gauche et un flingue dans la main droite, au cas où. Eh ben, ce mec, ou cette fille, c'est mon héros, absolument. Ouais, en Loire-Atlantique, il y a quelqu'un, là, tout de suite, qui se balade et qui a raté 6 millions d'euros. J'espère juste une chose, c'est qu'il n'en s'en doute pas, parce que sinon, il y a de quoi tuer tous ses proches quand même, hein. Imagine. Eh, t'as vu, Jean-Michel? Les numéros que tu joues d'habitude, ils sont sortis il y a 6 semaines. Si t'as joué, j'espère que t'as réclamé ton fric, hein, parce que depuis hier, c'est mort, hein. Tu y as plus droit. Jean-Michel, t'es tout pâle. Eh, hey Jean-Michel. Mais qu'est-ce que tu fais, Jean-Michel? Moi, je comprends. La personne qui serait devant moi, qui me ferait comprendre que je suis passé à côté de 6 millions, je ne vois pas d'autre alternative que de la buter, histoire de décompresser. Oh mon Dieu. J'espère que c'est pas Valérie Pécresse qui a joué et qui aurait pas réclamé les 6 millions d'euros. Là, j'ai une angoisse d'un seul coup. Elle qui a tant besoin de pognon avec son endettement personnel de 5 millions et c'est moins de 5% au premier tour, donc non remboursable. Non, ce serait tellement horrible. Bref, qui que ce soit, c'est atroce. Et c'est aussi pour ça que ce malheureux ou cette malheureuse est mon héros ou mon héroïne du jour. Parce que le martyr est aussi une forme de bravoure.
Merci, Daniel. J'ai envie de parler avec Laurent Stocker et Serge Bagdassarian de L'Avare à la Comédie Française jusqu'au 24 juillet. De quoi vas-tu nous parler, Tristan. Mon cher Tristan Lopin, pour cette première sur
Alors,
Terre.
Ce que j'ai prévu de faire ouais. tout à l'heure, bah écoutez, ça a été vraiment très rapide, hein, parce que moi j'ai dû...
Tu peux faire plus court, s'il te plaît.
On t'a... Ouais, c'est vrai qu'on t'a, on t'a appelé ce matin à 7h15.
On m'a appelé dimanche, ouais. en plein week-end de Pâques, donc j'ai fait un truc avec un petit peu d'actualité, un petit peu de moi aussi pour me présenter aux auditeurs qui peut-être ne me connaissent pas. Donc c'est un truc, un panel de tout ce que je sais faire. C'est donc génial. C'est assez large.
Très bien. Catholique mais pas pratiquant. On va rassurer tout le
pas
monde.
Pas du tout.
Voilà, bon. C'est ça. On en parle après les infos de midi sur Inter.
La deuxième partie oui. de la bande originale oui. sur France Inter.
Oui. Merci Laetitia Gaillet.
Mais de rien.
Elle reviendra toute l'après-midi.
Mais il n'y a pas de problème.
Il faut qu'elle arrête de fumer aussi.
Je sais pas, Nagui aussi.
Il y a un petit côté Macha, ouais. un petit côté allô.
Laetitia Gaillet.
Non, ça suffit, rendez l'antenne là.
Ouais.
Et à 13h, ce sera le journal de 13h. Original avec les plaquettes de Roulette. Tristan Lopin, Daniel Morin, Sarim, et nos invités Laurent Stocker et Serge Bagdassarian de la Comédie Française. De la Comédie Française, faut le préciser, jusqu'au 24 juillet. Ça va se voir hein, que t'es amoureuse.
Oui, je sais, mais je l'ai toujours dit. Ça fait 8 ans qu'on fait cette émission et à chaque fois je peux le dire, je le dis. Serge.
C'est vrai.
Je sais pas si vous m'entendez à chaque fois, mais je le dis à chaque fois.
Mais
elle
toujours.
Elle dit du bien de vous.
Mais toujours. Oui, c'est bien. C'est bien.
Ouais, c'est la seule, hein, mais c'est
jusqu'au. Mais oui, mais avec quelqu'un comme moi, ça suffit.
Je
n'ai pas besoin d'en avoir quatre.
Très beau porte-voix.
Jusqu'au 24 Merci. Juillet à la Comédie Française, L'Avare, mise en scène par Lilo Aubord avec nos deux invités, Serge Bagdassarian Rian et Laurent Stocker. Il y a également Alain Langlais, Françoise Gillard dans Frosine, Jérôme Pouli dans La Flèche, Nicolas Lormeau, Anna Servinka, Jean Chevalier, Élise Lomo, Clément Bresson, Adrien Simignon et Jérémy Berthoud. Cette fois, je l'ai bien descendu.
C'est très bien.
Je t'es sûr peu... que ça se joue encore parce que...
Oui, jusqu'au 24.
24 juillet.
Jusqu'au 24 juillet. Est-ce que quand on joue une pièce comme ça, est-ce que l'on peut s'amuser d'un soir à l'autre à faire évoluer, Serge, soit une mise en scène, soit une, je sais pas, un geste, Toujours. Quelque chose, est-ce qu'il peut y avoir de la fraîcheur d'un soir à l'autre?
Ah, mais bien sûr, parfois on est spectateur, moi il y a des moments où je suis spectateur de, il y a un moment donné où Laurent se met à hurler l'argent, il le fait à peu près 30 fois de suite. Il le fait jamais exactement de la même façon. Et c'est ça, évidemment, qui est le grand plaisir du spectacle vivant, c'est que même si on respecte une mise en scène dans son âme et dans ses grands traits, ça bouge tout le temps.
Vous dire qu'il est cabotin et qu'il essaie de vous faire rire.
Ah mais c'est pas, moi je vais vous dire, le mot cabotin, je trouve que c'est une médaille. Donc quand c'est usé à bon escient, je trouve que c'est une vertu chez un acteur. Et je trouve qu'il n'est pas cabotin là pour ce moment-là, mais qu'il va le devenir, et ça sera pour mon plus grand plaisir, parce que je trouve que c'est des grands moments
non,
de théâtre.
Non, je ne deviendrai pas cabotin. Non, je vais résister.
Être spectateur aussi, comme le dit Serge Bagdassarian, de la troupe, de ce qui se
Bien
passe.
Sûr.
Aussi, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur l'écoute, l'importance de l'écoute pour un acteur.
L'importance de l'écoute et l'importance du moment présent. Ce que font très bien les enfants, c'est pour ça que je dis, il faut toujours regarder les enfants quand ils jouent. L'enfant, il joue, il fait un truc, il rit, et la seconde d'après, il pleure. C'est très très dur à faire, comme mais quand on retrouve ça, c'est alors parfois on se fait peur à soi-même avec le texte, parce que il faut pas essayer de penser à la réplique qui suit. Il faut essayer d'être que dans le présent. Et donc quelquefois, il peut y avoir des retards à l'allumage au niveau du texte, mais c'est pas grave. Parce que il vaut mieux faire ça que d'avoir une sorte de routine. Ou moi, je me souviens de Michel Serrault qui disait, par exemple, il y avait des soirs quand il jouait l'avare, il a joué ça. Il trouvait que les acteurs étaient un petit peu endormis ou quoi, ou et donc pour redonner du peps, il disait je suis pas rentré au même endroit où je me suis caché sur scène. Donc l'acteur rentre, il le voit pas. Enfin c'est dingue. Alors on n'a pas encore cette liberté là parce que on mais est qu'à la 8e représentation.
Mais vous prenez ça comme une liberté.
Non, je ferai pas, j'irai pas me cacher, j'irai pas jusque là peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut surprendre l'autre, et si l'autre n'écoute pas, on le sent tout de suite. Il faut, en fait, on est toujours sur des œufs. Si on est sur une chose routinière et que c'est exactement la même intonation, etc., ouais, ça n'a aucun intérêt, même pour nous, parce que si on le joue 200 fois le spectacle, il faut bien que à la 185e, ce soit encore un peu différent. Et avec la chance qu'on a, c'est quand on joue Molière, on découvre toujours des choses qui étaient cachées. C'est pour ça qu'il parlait de la psychanalyse. Ouais. Je disais, c'est une boutade, mais je disais, Molière a bien lu Freud.
Est-ce que dans les intentions et les intonations aussi, il y a une modernité? C'est ce que j'ai ressenti en tout cas en voyant votre jeu. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment d'avoir un texte poussiéreux qui est dit dans un tempo et dans un rythme un peu d'époque. Ça, d'abord, ça se chevauche, comme dans la vie.
Ça se répond assez vite.
C'est ça, oui.
Et parce que je crois que vous comprenez ce que ça va être énorme ce que je vais dire, mais c'est que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire. Parce que quand on voit des mises en scène de Molière, on voit du texte de Molière qui est joué. Parfois, on voit des acteurs qui jouent, mais qui comprennent pas spécifiquement ce qu'ils sont en train de dire.
C'est grave, c'est ça.
Ouais, mais c'est parce que
on en reçoit beaucoup
parce
aussi.
Que, en fait,
non, mais c'est même un critère de sélection
qu'on sache de quoi on parle.
Ben, oui, mais c'est important à dire aux spectateurs aussi, parce que souvent c'est le spectateur qui est dans la position de se dire ah ben je suis nul, je comprends rien. Non, c'est parce que souvent ce n'est pas suffisamment bien joué ou bien entendu et compris.
Est-ce qu'il y a des bons publics d'ailleurs à la Comédie-Française?
Ah oui, en général, on a de la chance, on a des très belles salles. C'est très rare quand...
Ça peut arriver que le public... Vous pouvez sortir de scène en disant ce soir le public n'a pas été bon.
Ça peut arriver. Mais quelquefois, ce qui est très étrange, c'est que le public ne réagit pas. Donc on est un peu en panique. On se dit mais ils comprennent pas. Et en fait, ils sont très très à l'écoute. Et au salut, ils applaudissent à tout rompre.
Respectueux comme un opéra finalement.
Ouais, et quelquefois un public qui rit beaucoup sur le moment, qui est très bien aussi, applaudit moins.
Très vite à la fin.
Non mais c'est très étrange. Il y a une alchimie qui est toujours différente, quoi.
Ça rajoute du piment,
sûrement. Oui, ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que quelquefois, quand on n'a aucune réaction, c'est arrivé, je dirais pas pour quelle salle, il y a des salles quelquefois privées avec des gens qui viennent. On avait fait un dindon quand même il y a longtemps de Fedo, et il n'y a eu aucun rire.
C'est dur sur
donc,
le Fedo.
Donc c'était la seule fois, parce que c'était une salle, en fait, on s'est rendu compte que c'était une salle privée, et il y avait toute une hiérarchie de gens dans la salle.
Donc ils pouvaient pas rire.
Il y avait le patron à côté, donc les gens n'osaient pas rire. Il y a aussi la société dans une salle.
Bien sûr.
Donc il faut que voilà, il faut être bien, il faut être à l'aise dans ses baskets pour aller au théâtre aussi, et pas avoir quelqu'un à côté. On se dit j'ai un tel à côté, donc j'ose pas rire, etc.
Vous rirez de bon cœur avec cet avare qui a été déjà projeté au cinéma, et vous me disiez qu'il y avait des...
À partir du 3 mai, il y a des rediffusions. Dans plein de cinémas pâtés, et on pourra à nouveau aller le voir si on ne trouve pas de place.
Et c'est jusqu'au 24 juillet à la Comédie Française, oui, et absolument, les places sont rares, mais même le soir même, comme vous l'avez précisé au bureau, on peut trouver encore des places. Oui. Voici la première de Tristan Lopin sur Terre.
Merci.
Merci mille fois pour cet accueil si chaleureux, mais je tiens tout d'abord à rassurer tout le monde. J'imagine que les auditeurs de France Inter sont surpris de ne pas entendre Tanguy Pastureau aujourd'hui et se posent tous la même question. Mais qui est cet homme qui chatouille mon oreille de sa douce voix suave, mélodieuse, chaude, rassurante, charismatique, pleine de mystère et de promesses de bonheur à venir? Et bien...
Qui est-il ?
Je suis un peu la surprise du Kinder Maxi parfum salmonelle que l'un de vos enfants a ramassé lors de ce délicieux week-end de Pâques passé en famille à la campagne sous ce beau soleil de printemps, à écouter les rires de votre progéniture vous permettant de mettre de côté durant quelques instants toutes les angoisses que nous inflige cette actualité de l'enfer. La guerre en Ukraine, le second tour de l'élection présidentielle et je ne sais pas si je devrais vous le dire, mais TF1 a annoncé qu'il n'y aurait qu'une seule saison de Koh-Lanta cette année. Le bad. Non, je vous le dis, c'est la merde grave. Avec le karma constable, vous allez voir qu'ils vont nous annoncer le tournage d'un quatrième opus de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Et là, ce serait vraiment le pompon. Dans tout ce chaos, c'est donc finalement une chouette nouvelle que de me retrouver ici. Parce que sachez-le, mesdames et messieurs, pour moi, c'était assez inattendu. Il y a 2 jours, j'étais même pas au courant que je serais parmi vous aujourd'hui.
C'est vrai.
J'étais affalé dans mon canapé, seul, rapport au fait que je suis entouré de gens qui font des familles et font des projets, qui ont passé leur dimanche à chasser les œufs et à étaler leur bonheur sur les réseaux sociaux pour bien nous montrer que eux, ils ont droit à tout ça. Ah, ils me rendent ouf, ça ne sert à rien de me mettre la pression en fait. De toute façon, même si je le voulais, je n'ai absolument aucun pouvoir décisionnel sur ma vie. Moi, même mon chat a préféré se barrer avec mon ex. Sérieusement, non, mais les gens disent toujours, les animaux, c'est hyper fidèle, jamais ils ne te trahiront ou t'abandonneront, ils te portent un amour inconditionnel. Même Adolf Hitler avait un chien. Non, mais alors, soit c'est grave des conneries, soit je dois dégager une énergie de merde, parce que pour que même mon chat ait décidé de se faire ses valoches, c'est chaud. Après, ça se trouve, c'est les mêmes gens qui disent, ah non, mais moi, de toute façon, j'ai plus confiance dans les animaux que dans les humains. Ah là là, mais quel enfer, cette phrase. Mais vous imaginez la solitude des personnes qui la prononcent, c'est terrible. Bref, j'étais tranquillement sur mon canapé en train de manger du Nutella à la cuillère en m'attendant à un docu Arte super intéressant sur les ravages de l'huile de palme. Quand soudain mon téléphone sonne, numéro inconnu, je me suis dit c'est quand même pas les mecs du compte formation qui m'appellent un dimanche de Pâques. Et pas du tout, c'était vous, me réclamant, ou plutôt devrais-je dire me suppliant. Ouais. Genre. Tristan, France Inter te veut, viens relever le niveau sur l'antenne grâce à ton talent, viens inonder nos auditeurs de ta présence solaire, Nagui a besoin de toi, Leïla menace d'arrêter le popper. La France, la France te réclame, entend son appel de petite souillon. Ou plus honnêtement, on va être honnête, il y a moyen que tu remplaces Tanguy Pastureau mardi. On a cherché en interne, mais visiblement tous nos chroniqueurs ont une vie, même Guillermo Guise, et personne n'est dispo. Soyons tout à fait honnêtes, je n'ai absolument aucun ego. Je n'ai donc même pas cherché un tout petit peu à me faire désirer. D'un coup, j'étais ce fameux mec moche à qui on finit par dire oui en fin de soirée. Parce qu'on a tenté notre chance auprès de tous ceux qui nous plaisaient vraiment. Mais que bon, bah là, rentrer seul, franchement, flemme. Et puis les moches, c'est bien aussi. Parce qu'ils sont tendres. Dans leur tête, il y a toujours l'idée que c'est peut-être la dernière fois que quelqu'un s'intéresse à eux. Moi, ça me rassure. Pourtant, je n'ai pas vous caché. C'est vrai. C'est vrai, soyons honnêtes. Pourtant, je vais pas vous cacher, ça m'arrangeait pas tellement cette chronique. Je me suis récemment abonné à Salto pour pouvoir mater Mariée au premier regard avec un épisode d'avance. Parce que oui, je suis ce genre de personne et j'étais clairement un peu partie pour passer la journée à prendre des notes sur les ça conseils va. Avisés des deux experts du Love, Estelle et Pascal. Ma passion. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez me juger ? Parce que Laure et Mathieu de la saison 5, ça a marché pour eux. Ils sont toujours ensemble, ils ont eu une gamine et je sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont eu une grosse frayeur vendredi dernier parce qu'ils ont dû amener leur fille aux urgences pédiatriques. Elle avait 42 fièvres et des vomissements. Ils ont eu super peur, mais ils ont traversé ça ensemble grâce à M6, à Estelle, à Pascal, mais surtout à la science. Vous le saviez,
tu
vous
n'avez... Pleurer, non,
non, mais je vais pleurer parce qu'en fait, c'est intense pour moi, cette émission. Je suis hypersensible. En plus, j'ai été diagnostiqué. Vous le saviez, vous, Nagui, que le Covid chez le nourrisson pouvait déclencher des vomissements?
Non.
Non, bah voilà, vous le saviez pas, donc je suis pas venu pour rien. Bref, vous l'aurez compris, votre appel a clairement chamboulé mon programme de la journée, mais je ne pouvais pas refuser. J'ai pensé à mes parents, mes sœurs avec qui je regardais « N'oubliez pas votre brosse à dents
!» <Ça danse.
rire> Et je me suis dit « Je ne peux pas leur faire ça !» Me voilà donc ici, islamo-gauchiste que je suis officiellement maintenant que j'officie chez vous pour vous parler un peu de l'actualité. Pas très réjouissante, on est d'accord. Du coup, j'ai préféré vous épargner une chronique anxiogène et culpabilisante à base de « faut aller voter Macron dimanche, hein, parce que sinon, si Marine passe, faudra pas venir pleurer dans les chaumières ». Je me suis dit que vous parler de ma solitude, de mon goût pour le gras et les programmes télévisuels douteux serait plus divertissant. Et puis, on m'a conseillé pour une première de faire 3 minutes 30, et là, ça fait presque 4 minutes. Donc, de toute façon, j'ai même plus le temps de vous dire d'aller voter Macron dimanche.
Merci.
Tristan Lopin qui est en tournée en France, en Suisse, en Belgique, c'est complet à Paris, à l'Européen, c'est complet à la Cigale à la rentrée, et puis il y aura l'Olympia
En janvier, deux dates à l'Olympia. Ouais.
Mais avec un peu de chance, tu reviendras nous en parler d'ici là.
Et tu ne rentreras pas seul.
Voilà. Et puis on souhaite un prompt rétablissement évidemment à Tanguy Pastureau, parce qu'il ne vomit pas comme bébé, mais il a le Covid et
il
vomit. Tout petit peu fatigué. Non. Chaton, tu dis pas chaton là, à ce moment-là, non,
non
tu dis
non,
pas chaton. Dans l'actualité culturelle, il y a l'avare à la Comédie Française, mais quoi d'autre, Leïla?
Quelle est la particularité de la pièce qu'Olivier Py va monter au Festival d'Avignon pour sa dernière édition comme président?
Elle fait 70 heures.
C'est une histoire de durée.
Elle est longue.
Elle est longue. Absolument, je te l'accorde. Elle fera plus de 10 heures.
10 heures.
Ma jeunesse exaltée sera donnée entre le 8 et le 15 juillet au gymnase du lycée Aubenel.
Entre le 8 et 15 juillet, non, ça fait une semaine.
C'est ça, oui, mais bon, à plusieurs reprises, t'imagines bien. Donc à peu près une dizaine d'heures. En réalité, c'est 4 pièces qui vont être associées et jouées dans la continuité. Il avait déjà joué au Festival d'Avignon le Soulier de Satin. Non, c'était au théâtre de l'Odéon, plus d'une onzaine d'heures, je crois que c'était 11 heures, quelque chose comme ça. Est-ce que vous serez au Festival d'Avignon? Est-ce que c'est un rendez-vous important pour vous?
C'était quoi la vanne sur le soulier de satin? C'était, je crois, des proches qui avaient dit, heureusement qu'il n'y en avait qu'un.
Heureusement qu'il n'y a pas la paire.
Il y a une vitesse, la remontée aussi, dans son intégralité.
Est-ce que c'est un rendez-vous?
Moi, je ne suis pas à Avignon cet été parce que je joue jusqu'au 24 juillet à Paris.
Donc impossible d'y être.
Impossible d'y aller.
Et vous, Serge, est-ce que c'est un.
Pareil, moi, je ne peux pas y aller puisqu'on a
joué. Tout le mois de juillet,
on a une triple actualité à ce moment-là.
Il n'y a même pas un soir ou deux soirs, comme ça, un aller-retour express pour aller au festival, voir les copains, voir les créations, parce que c'est quand même un...
On les verra quand ils viendront
à Paris.
Sincèrement, que pensez-vous de ce genre de. Je sais pas, d'exercice, d'happening, de tentative.
De théâtre.
Comment on peut appeler ça?
Non,
oui.
Non
mais l'idée de faire une pièce pendant 10 heures.
Il y a une tradition à Avignon, il y a des pièces qui ont été 24 heures.
C'est bien écrit. Moi, je me souviens d'avoir vu Henri V de Shakespeare, ça commence à 22h à la Cour d'honneur. Henri VI, pardon.
Ça a commencé à Henri V, ça finit Henri VI.
C'est ça, Henri V, j'ai joué après. C'était Henri VI. Une mise en scène de Stuart Side, ça a duré toute la nuit. Donc on.
Tu viens avec ton duvet.
On commence à 22h, on nous donne des. Et puis en fait, je me suis dit, mais ça va être très long. Et je me suis pas du tout ennuyé. Et au petit matin, donc quand le soleil se lève sur les personnages qu'on a. C'est magnifique, hein. Ça peut être formidable. Après, voilà, il faut que
c'est
ça
risqué.
Soit. Oui, il faut pas qu'on s'ennuie, quoi.
Est-ce que vous avez un souvenir, Serge, d'un spectacle au Festival d'Avignon qui vous a profondément marqué?
Ou profondément ennuyé.
Non, il y a eu des grands spectacles. Je me souviens que j'avais vu un spectacle qui avait été très très éreinté. D'ailleurs, c'était la Comédie Française qui avait joué Médée et Christine Fersen. Ça m'avait transporté.
Christine Fersen, avec qui vous avez fait votre première pièce à la Comédie Française.
Oui, ça c'était.
Première partenaire quand même. C'est pas rien.
C'était énorme.
Il y avait une volée de bois vert.
Le spectacle avait été très mal reçu et moi j'avais trouvé ça formidable. J'avais trouvé les acteurs merveilleux et le spectacle vraiment très très beau. Puis il y a toute cette émotion d'être effectivement à Avignon dans ces conditions-là, d'être dans une fête du théâtre, quoi. Ça change beaucoup de choses.
Autre question, quelle est la particularité de Jour de gloire, le film qui passera sur Arte dimanche 24 avril, à savoir le deuxième tour de la présidentielle.
Sur le résultat.
Il dure 10
heures. Avec le résultat en direct.
C'est Daniel, bonne réponse. Le film va être diffusé en direct le soir de l'élection et en fait sur les dernières minutes de ce film en direct, on découvrira le nom du président de la République. Donc c'est vraiment une fiction un peu folle.
En plan séquence.
Qui tu va veux être dire réalisé... que tout est truqué et qu'il savait déjà
non,
le résultat.
Ouais, c'est déjà
contraire, ça sera réalisé par Jeanne Frenkel et Cosme Castro, tourné en live entre 19h et 20h05, diffusé sur Arte, sur Facebook, sur YouTube aussi et dans une trentaine de cinémas français. Si vous voulez tenter cette expérience, le scénario est écrit à 85%. Il évolue au fur et à mesure jusqu'à cette date-là. Forcément. Non, mais il y a forcément des petites séquences. Non, pas d'élection, mais des petites séquences aussi. Enfin, ce grand plan séquence avec Félix Moati, en effet, et Julien Campani dans le rôle de deux frères qui ont des aspirations politiques divergentes. Quelle est l'expérience la plus compliquée techniquement que vous ayez pu connaître tous les deux?
Quand on fait les pâtés live, c'est assez compliqué parce qu'on joue sans micro, salle Richelieu. Là, on a des micros. Les lumières sont changées, etc. Ça donne du stress un peu supplémentaire de savoir qu'on est diffusé dans 200 cinémas en direct, en plus alors que c'est du spectacle vivant normalement qui doit être fait pour être vu dans une salle de théâtre. Ça, par exemple, moi, je sais que quand ces deux représentations sont terminées, je suis soulagé.
Ouais. Et vous, Serge?
Moi, c'était Pergunte. On avait joué Pergunte. D'ailleurs, c'était un spectacle qui durait plus de 5 heures et c'était fascinant à faire. Et il y avait un système, le décor était s'étalait au Grand Palais sur un peu plus de 100 mètres de long.
Wow, ouais.
Et donc, il fallait un système de sonorisation pour que quand on était du côté carrément à court, on puisse entendre très bien un jardin, ce qui était en train de se passer. Donc là, il y avait un défi sonore qui était assez formidable.
Retour donc sur l'Avare à la Comédie Française jusqu'au 24 juillet. Il y a également dans votre actualité, Laurent Stocker, Le Bourgeois Gentilhomme, que vous jouerez à partir du 7 mai jusqu'au 21 juillet, mise en scène par Valérie Lozor et Christian Heck, avec Guillaume Gallienne, Véronique Vella, Sylvia Berger, Françoise Gillard, entre autres. Vous êtes toujours à l'affiche de Goliath, très bon film dont on avait salué l'efficacité. Et on est ravis du résultat d'ailleurs, parce que ça se passe extrêmement
bien.
Oui, y a un casting formidable. Gilles Lelouch, Emmanuel Bercot, vous, il n'y a que des bons comédiens. Et Pierre Niney, il faut le préciser aussi en plus. Le 25 mai, vous serez à l'affiche de Homme au bord de la crise de nerfs.
C'est une comédie.
D'Audrey Dana avec Thierry Lhermitte, Ramzy et François-Xavier de Maison. Vous jouez quel personnage?
Je joue un type qui est un peu autiste et qui est qui conduit des métros et qui pète un câble parce qu'il
vit. Il y a une thérapie de groupe, hein, c'est
ça. Il est sous terre tout le temps et donc c'est une thérapie de groupe. C'est des hommes qui vont se retrouver à la campagne pour essayer de se défaire de leur portable, de leurs angoisses, etc.
Et vous êtes prochainement au casting de la série Oussekine sur la mort de Malik Oussekine.
Absolument.
Ça sera diffusé sur Disney+.
Disney+, oui, avec...
Pour chaque tournage comme ça, vous êtes obligé de demander l'autorisation à la Comédie française.
Ah oui, toujours. Et on ne peut faire... souvent, quand on joue, que des tournages à Paris, parce que sinon, si on part 2 mois, il faut avoir 2 mois où on joue pas. Mais ça s'appelle une demande de congé.
C'est le nom que ça apporte, d'accord.
Congé pour.
Mais c'est qu'un problème, pardon, d'emploi du temps, ou est-ce qu'il demande à lire aussi les
scénars? Non.
Ah, ils ne lisent pas.
Non, ils font confiance à leurs acteurs.
C'est ce que j'allais dire, vous faites une pure daube.
Ah oui, on a le droit.
Vous êtes il peut y avoir au générique une pure daube avec un tel de la Comédie française.
Oui, c'est ça qui est bien.
Bon, après, tu peux t'engager sur un film et te dire que ça va être super et ça devient une daube. En fait, ça, c'est compliqué.
Ah, Serge Bagdassarion lève les yeux aussi.
Mais
alors,
non,
ça sent le vécu.
Non, je sais pas.
Vous avez
il opine du chef, il est d'accord.
Il opine. On est peu de fois, mais c'était toujours très bien.
Vous jouerez. Donc là, c'est sans risque. Hein, sans risque, en tout cas, de refus de la Comédie française, parce que c'est à la Comédie française. Ça se joue déjà et jusqu'au 22 mai, Le Misanthrope, dont vous parliez tout à l'heure, mise en scène par Clément Hervieux-Léger. Et à partir du 17 juin jusqu'au 25 juillet, Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres.
Oui,
c'est une pièce de Molière.
Non, c'est pas une pièce. C'est une pièce qui parle beaucoup de Molière, dans les mots de Molière, et qui parle de la troupe. Alors c'est on n'arrête pas de faire des allers-retours entre la troupe aujourd'hui, la troupe d'hier, et puis pour s'apercevoir que finalement c'est un peu la même. Hein, voilà. Et puis on parle beaucoup de ce cousinage en ce moment. Enfin, on s'aperçoit. On fait une chose très très particulière parce qu'on parle de nous-mêmes. Mais d'une façon très intime, d'ailleurs, on se dévoile beaucoup, même physiquement sur le plateau, pour trouver une chose qui soit commune avec Molière. On essaie de trouver une parenté dans les mots, dans les façons de dire les choses, dans les inquiétudes. On parle beaucoup de la critique, on parle beaucoup de l'œil qui est jeté sur cette maison, du fantasme qu'elle projette sur les autres. On est encore là-dedans. Hein.
Beaucoup. Laurent, vous avez l'air...
Non, moi, c'est Hervé Pierre qui va créer le rôle dans... avec eux. Et ensuite, Hervé, malheureusement, va partir de la Comédie Française et je vais reprendre son rôle. Donc, je serai aussi dans ce spectacle.
D'accord.
Mais en septembre seulement.
Si vous aviez un mot à dire sur Michel Bouquet qui nous a quitté la semaine dernière.
Laurence, c'était un acteur. Moi, j'ai fait un film qui s'appelait Caprice, mais j'avais pas de scène avec lui. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de le rencontrer, mais je crois que c'était un acteur, un immense acteur et un pédagogue extraordinaire.
Oui, c'est un transmetteur, un professeur.
Oui, j'ai des amis qui l'ont eu au conservatoire et ils sont marqués à vie par la transmission qu'il a pu leur faire. Mm. C'était un acteur absolument merveilleux.
Serge, Bagdassarian, vous avez un souvenir?
Alors, moi, j'ai un souvenir personnel dans le sens où on jouait dans le même théâtre où il y avait deux salles à Amiens, me semble-t-il. Il jouait Minetti et moi je jouais un autre spectacle dans la salle d'à côté et on avait une salle en commun pour les deux spectacles, pour les acteurs, une salle de repos. Et il m'a pris pour quelqu'un d'autre, il m'a pris pour son chauffeur, il a commencé à me parler en me disant oui alors, voilà. Et donc je me suis retourné et il s'est excusé et puis on a parlé de théâtre pendant pas mal de temps et on a parlé beaucoup du trac, voilà.
Il avait le droit
traqueur.
Bien sûr, oui, il était traqueur. Il était.
Et vous?
Moi aussi, mais on arrive à vivre avec, et puis à un moment donné, à faire la paix avec le trac.
J'ai envie des acteurs qui n'ont pas le trac.
Ouais.
L'avare de Molière, c'est à la Comédie Française à voir absolument avec nos invités Laurence Stocker et Serge Bagdassarian. Des excuses à présenter peut-être, Daniel Morin?
Bien sûr, déjà désolé pour les villes de Saint-Dizier et Dunkerque, territoire sacrifié, oublié par la culture. Deux villes dont Laurence Stocker et Serge Bagdassarian ont parlé, toujours dans le compromis, de villes d'une laideur bouleversante et d'une méchanceté mélancolique. Alors, service public oblige, pour vous aider, ville maudite, on va envoyer Morgane, Paul et Tristan tourner là-bas. Eux aussi, à leur façon, sont bouleversants. Désolé pour toutes les mamans qui risquent d'avoir une surprise de taille pour la fête des mères. Et oui, les enfants qui nous écoutent ont compris, grâce à Laurence Stocker, que le plus beau cadeau du monde, c'était la petite crotte bien moulée, même pas emballée. Vivement le 29 mai. Désolé pour toutes les comédiennes et comédiens dont les noms de famille ont été... une fois de plus, salopé par Nagui. En même temps, dans un titre qui n'a qu'un seul prénom, ça n'étonne personne.
Merci beaucoup, Laurence Stocker. Merci Serge Bagdassarian. Portez-vous bien. Merci Morgane, Paul, Tristan, à bientôt, Daniel, Leïla. Aussi, à demain, tout simplement, avec François-Vincent Elly qui sera notre invité. Bonjour, Philippe Bertrand.
Bonjour, Nagui. Bonjour, les amis.
Salut.
Bonjour,
Philippe.
Où vas-tu?
Je vous emmène dans les Hautes-Pyrénées et on va visiter des tiers-lieux. Vous savez qu'il y en a de plus en plus en France, dans les tiers-lieux. On fait beaucoup de choses, on travaille ensemble, on mange, on produit, on accueille des artistes et on crée des emplois.
Wow.
Très bon,
bien. Ouais.
C'est convaincant.
Bah oui, on va y aller.
On bouge pas.
Ouais, merci, bravo. Philippe. Merci.
Ciao. Salut. Salut.